et médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. C'est comme une onde de choc qui frappe le monde culturel au Canada et en France. Mardi, on apprenait la mort du chanteur québécois Karim Ouellet, artiste lumineux, 37 ans. Le lendemain, l'acteur Gaspard Ulliel perdait la vie brutalement lui aussi, artiste lumineux, 37 ans. 37 ans tous les deux. Des hommages ici, malheureusement, on en a fait. Mais là, franchement, on n'est pas préparé. Peut-être parce que on projette sur un proche, un frère, un ami qui n'a pas encore 40 ans. Peut-être aussi parce qu'à 37 ans, on est plein de vie et d'espoir. Peut-être parce que ce n'est pas dans la logique des choses, tout simplement. Désolé, mais on ne meurt pas à 37 ans.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Au sommaire aujourd'hui, le grand comédien Francis Huster est sur notre plateau pour célébrer Molière. Il sera question des souvenirs liés au vin avec Daniel Picouli qui propose un nouveau roman autobiographique plein d'humour et de saveur. Et puis nous rendrons hommage à Jean-Jacques Benex avec son roman Toboggan qui est sorti en poche le lendemain de sa mort. Entretien très émouvant, inédit à la radio tout à l'heure. Vous entendrez aussi donc Karim Ouellet qui était venu dans la librairie francophone estivale et la voix de Gaspard Ulliel. Allez, on va dérouler cette émission tous ensemble, comme toujours, soudés. Les libraires sont avec nous comme chaque semaine. Ils interviendront bien sûr tout au long de cette émission. Bonjour Mathieu Colombe.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Aix-en-Provence dans la librairie Goulard et vous représentez la France.
Toujours.
Vous allez bien ?
Toujours.
Vous avez l'air en forme. Très bien. Claire Renaud représente la Suisse, elle, dans sa librairie Atmosphère à Genève. Bonjour Claire.
Bonjour Emmanuel.
Avec votre jolie petite voix que j'adore.
Voilà.
Il fallait le dire un jour. Au Canada, on retrouve Josiane Letourneau de la librairie du Square à Montréal. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
On vous retrouvera, vous, dans la version télé de la librairie francophone avec un magnifique t-shirt. Hein, les libraires ont un super pouvoir, un truc comme ça.
C'est quoi exactement la formule? Quelque chose comme ça, je m'en rappelle même pas.
Bon, faudra regarder l'émission et nous serons notamment avec Daniel Pénac et avec MC Solar. À ne pas manquer donc, diffusion sur RTBF La 3 ce dimanche soir, sur RTS2 et ici RTV de Radio-Canada lundi soir, puis dimanche 30 janvier sur TV5 Monde. Voilà qui est dit. Bonjour Nathalie Clairin.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en Belgique, dans la librairie de la Mazrine à la Hulpe, et vous allez nous raconter une anecdote de libraire en ce début d'émission.
Ah, volontiers, oui, oui. Mais écoutez, le métier de libraire, Emmanuel, c'est favoriser la rencontre. Alors, on pense aux rencontres avec un livre, on pense aussi à celles faites avec le client, bien entendu, et aussi, pourquoi pas, celles que les clients feraient entre eux. Et donc, la petite histoire, c'est que la semaine dernière, une cliente, en l'air un petit peu tristounée, recherchait un guide de promenade. Alors, il faut dire qu'on en a d'excellents, on en a vendu beaucoup ces derniers mois, et une autre dame tend l'oreille au conseil donné. Eh bien, il n'a pas fallu longtemps avant que ces deux-ci s'adressent la parole, et puis finalement, on les a entendus échanger leurs emails, et voilà ma petite dame isolée avec un rendez-vous pour son dimanche, pour rejoindre un groupe de marche organisé.
Ah oui, d'accord.
Eh bien, voilà, ça m'a fait vraiment plaisir d'imaginer les rencontres en cascade qui s'en suivraient, et finalement, dont notre chaleureuse librairie avait été le point de départ.
Mais voilà, la librairie lieu de lien social, on l'a toujours dit, hein, c'est ça ?
Tout à fait.
Et oui, lieu de rencontre. Merci beaucoup pour cette anecdote, Nathalie. On part dans l'univers de Molière tout de suite.
La plupart des hommes meurent de leurs remèdes, non pas de leur maladie.
La belle chose que de savoir quelque chose.
Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.
L'amour, c'est-il pas l'art d'aiguiser les esprits?
Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement.
Si c'est votre façon d'aimer, je vous prie de me haïr.
Ouvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Cela fait venir de coupables pensées.
Il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger.
On célèbre les 400 ans de la naissance de Molière en ce mois de janvier. Molière né le 15 janvier 1622, 2022, et donc l'année Molière. Bonjour Francis Huster.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de deux livres sur Molière, dont un dictionnaire amoureux dont nous allons parler. Il y a en France des critiques sur la façon d'ailleurs dont nous célébrons Molière. En fait-on assez? C'est la question qui est posée. Qu'en pensez-vous, Francis?
On n'en fait pas assez. Au point de vue des spectacles, il va y avoir un magnifique spectacle à la Comédie Française, le Tartuffe en trois actes. C'est presque une création d'ailleurs de l'œuvre, interprétée par cette troupe absolument extraordinaire, mis en scène par le metteur en scène belge Van Hove, et ça va être formidable parce que ces acteurs vont enfin montrer que la Comédie Française peut jouer Molière d'une façon moderne. Et aujourd'hui, à un moment, Marina Hans, qui est une actrice de sublime, un peu comme Rosamund Pike en Angleterre, parce qu'en plus Marina est la fille de Thierry Hans et de Ludmilla Michel, et bien à un moment, elle déshabille carrément Tartuffe, elle va lui enlever son slip,
on en fait plein de Molière, mais vous êtes très engagé pour défendre Molière, je suis très engagé parce que
je pense qu'il est temps de faire vraiment la révolution Molière, de l'offrir aux femmes. Ce sont elles qui sont les véritables héroïnes, et bien évidemment je ne cède pas sur l'entrée de Molière au Panthéon, elle aura lieu.
Bien, alors Molière, qui est selon vous celui qui a révolutionné l'art théâtral, au même titre que Picasso, dites-vous, a révolutionné la peinture, et Charlie Chaplin a inventé un nouveau cinéma. Molière incarne la création théâtrale totale?
Oui, ça veut dire que, comprenez bien, avant, au théâtre, on a les rois, on a les empereurs, et le peuple, mais 90% des Français ne savent ni lire ni écrire. Donc on veut leur faire admirer les grands, les sublimes. Et tout d'un coup, Molière, le comédien, crée l'art du comédien, il met la langue du peuple sur scène, il met le peuple sur scène, et sur scène, les femmes qui sont tellement exclues, effondrées dans la société française, elles peuvent enfin avoir la parole.
Alors c'est vrai que Molière invente aussi le divertissement à message, Francis Huster. Il écrira même cette phrase qui est la clé de son art: le devoir de la comédie est de corriger les hommes en les divertissant. Du coup, tous ces personnages ont des lubies ou des obsessions. C'est pour dénoncer les vices, ça?
Absolument, c'est-à-dire que tous les personnages, et c'est ça son génie, sont des losers, tous des salauds, des traîtres, des gens qui trahissent tout le monde, et ce sont les autres personnages qui justement leur règlent leur compte sur scène. Et ça, c'est extraordinaire, c'est la grande idée de Molière.
Calmez-vous, Francis.
Non, mais c'est-à-dire que si Hugo et Zola considéraient Molière comme leur maître, c'est un juste titre.
C'est un écrivain
politique.
Ouais, politique, c'est exactement le mot. Vous soulignez aussi l'impression de naturel donnée par l'écriture et la dramaturgie. À l'époque, on peut imaginer ce naturel. Mais aujourd'hui, Francis Huster, si on respecte le texte à la lettre, on arrive à être naturel quand on joue Molière, vraiment?
On arrive à être naturel parce que les yeux sont les portes de l'âme. C'est 30% de l'interprétation. Et puis les silences poursuivent exactement comme en musique, adagietto, prestissimo. C'est dans cette espèce de complicité entre le public. Rappelez-vous bien ceci, contrairement à tous les autres acteurs, et ça continue, on a deux catégories d'acteurs. 80% des acteurs continuent à être des déclamateurs. Et ils déclament, il y a un ton insupportable au théâtre, 80% du temps. Alors que justement, ceux qui ont compris le message de Molière vivent au lieu de déclarer.
Il faut vivre le texte, c'est ça que vous dites. Chaque respiration compte.
Bien sûr, mais chaque respiration permet au public d'interpréter le rôle. Et puis alors j'insiste sur le fait, justement, puisque nous avons un représentant, j'adore votre librairie, Aix-en-Provence, Mathieu, elle est extraordinaire.
Et je dois dire que, à l'intérieur
des livres, il s'agit du personnage, ça veut dire ad vitam aeternam, l'Iliade et l'Odyssée, ça ne changera pas, ni les Misérables. Mais par contre, ce que Molière a inventé, c'est le rôle, c'est-à-dire la sculpture humaine. D'ailleurs, on ne donne pas un premier prix du personnage ou un deuxième prix du personnage, on donne un premier prix du premier rôle ou du second rôle. C'est ça. Et le rôle, il est interprété à la fois par le comédien ou la comédienne et par le public.
Alors, on a retrouvé un extrait de L'Avare, joué au théâtre de l'Odéon à Paris en 1973. Vous êtes sur scène, Francis Huster, et vous interprétez Cléante, vous vous souvenez de ce rôle? Le fils d'Harpagon. Alors, ça remonte un peu loin, mais vous allez l'entendre, effectivement, Francis, comme il a toujours été, le grand comédien qu'il est, sait interpréter un texte et non le déclamer. Écoutez.
Ma sœur, j'ai voulu vous parler pour m'aider à sonder mon père sur les sentiments où je suis. Et
Si je l'y trouve contraire, j'ai résolu d'aller en d'autres lieux, jouir avec cette aimable personne de la fortune que le ciel voudra bien nous offrir. Je fais chercher partout, dans ce dessin, de l'argent à emprunter. Et si vos affaires, ma sœur, sont semblables aux miennes, et qu'il faille que notre père s'oppose à nos désirs, nous le quitterons là, tous deux. Et nous affranchirons de cette tyrannie où nous tient depuis si longtemps son avarice insupportable.
...1973, Francis Huster, immense comédien. Vous l'aviez en vous, hein, ce rôle, déjà. Vous avez Molière en vous, Francis.
Je l'avais en moi, parce qu'en plus, ce qui est extraordinaire avec Molière, c'est que c'est toujours une histoire d'amour. Isabelle Adjani jouait évidemment, on s'aimait le rôle de la jeune première, et Ludmila Mikel, et on s'aimait aussi beaucoup avec Ludmila. Elle interprétait la sœur, ma sœur, dans la pièce, et on est obligé d'être soi-même. Avec Molière, on peut pas mentir, comme avec Pagnol.
Alors, je vais vous provoquer un peu, Francis.
Oui.
Cette langue n'est-elle pas surannée pour la jeunesse d'aujourd'hui? Ne regardez pas comme ça.
Qu'est-ce donc ?
Je vous provoque. C'est une question.
Quelle bizarrerie. Laissez-moi là vous dire, j'ai couru vous cacher. Mais on entend au moins les gens sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher, ils ne veulent pas t'entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi, Camille ? Enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami ? Rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de lettres. Mais après ce qu'on vous, je viens de voir paraître, je vous déclare net. Que je ne le suis plus, et n'avais nulle place, en décor corrompu. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre
très
compte.
Bien.
Ça, c'est le misanthrope.
Oui, c'est le misanthrope.
On le revit.
C'est votre réponse.
Oui, c'est-à-dire que...
Non, mais je prends comme réponse, ça me va très bien.
C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a les classiques qui restent gravés dans leur époque, et il y a au contraire les modernes qu'on doit à chaque fois réinventer et redécouvrir.
Bien, c'est une belle réponse. Merci Francis Huster, on va aller voir du côté de nos libraires. Attendez, on n'a pas terminé, la Suisse, la France et le Canada ont lu le dictionnaire amoureux. On va commencer avec Claire Renaud qui est en Suisse, Claire.
Oui, alors c'est vraiment le dictionnaire d'un passionné et passionnant sur ce dieu du théâtre. C'est un bel hommage qui nous aide à aborder Molière sous tous les angles. Et puis pour moi, ça va me le rendre plus facile d'accès, parce que c'est vrai que c'est assez difficile comme ça de le lire, et j'ai pas eu les profs comme Francis Huster à l'école. Alors je pense qu'il va nous le rendre plus familier et plus proche, et ça c'est vraiment un bel hommage que vous faites. Et donc du coup, je me réjouis de voir une prochaine pièce avec votre regard dans l'ombre, comme ça, ça m'aidera.
Josiane Letourneau pour le Canada.
Eh bien, Francis Huster, je dois dire que je vous comprends, parce que quand on est amoureux, on est intarissable à propos de l'objet de notre passion, et c'est l'une des choses qui saute aux yeux lorsqu'on amorce votre livre. J'ai une immense admiration pour toute l'expérience, l'investissement et le travail d'érudits qui se sentent entre les lignes. Et il faut bien le dire, quand vous en faites la remarquable démonstration, le théâtre contemporain a vraiment une dette envers Poquelin, l'auteur, mais encore davantage, si c'est possible, envers Molière, l'acteur.
Bien. Mathieu Colomb, vous avez un regard sur Molière, vous. Alors, puisque Francis Huster est un habitué de votre librairie, regardez-le droit dans les yeux et dites-lui ce que vous pensez de Molière. Alors, bonne chance, Mathieu.
Merci. Alors, même si l'esprit chagrin pourrait dire que le succès de Molière peut s'expliquer aujourd'hui parce qu'il fait partie des obligatoires des programmes scolaires, il faut quand même avouer qu'il arrive encore à susciter des passions et même à créer des vocations. Et ça, ça impose le respect parce que ça veut dire que son texte garde et son écriture garde un certain impact. En plus, d'un point de vue très personnel, j'ai une petite tendresse pour lui, parce que la postérité aura gardé cette histoire fausse qu'il était incapable de faire de la tragédie et que c'était pour ça qu'il faisait du comique, alors que, au contraire, la tragédie savait en faire. D'ailleurs, c'était un très bon acteur de tragédie, mais il a arrêté d'en jouer pour créer son nouveau genre de théâtre.
Francis Huster.
Bravo. Moi, c'est magnifique, quoi. J'ai presque les larmes aux yeux d'entendre ça. Merci beaucoup à tous les trois. Vraiment.
Alors, on ne sait pas grand-chose de Molière. Sur sa vie, les éléments fiables ne sont pas nombreux, et c'est normal, parce que c'était il y a 400 ans. On sait qu'il était généreux, pas du tout comme son personnage Harpagon, vous le soulignez dans le livre, qu'il vivait dans le confort, contrairement à ce que l'on a pu dire. Il avait un ami aussi, Charles Varlet, l'homme à tout faire, meilleur ami récompensé par des rôles, mais totalement sous l'emprise de Molière.
Totalement.
C'était pas un ami terrible, Molière.
Bah, c'est-à-dire que c'est un peu le filinte de Molière.
Ouais.
Sous le nom de Lagrange, il était là pour réparer explorer justement les cicatrices des combats de Molière. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que Molière a eu son Iago, son traître, son Judas, mm-hmm. avec Jean-Baptiste Lully.
Ouais,
Jean-Baptiste Lully,
ouais.
à qui d'ailleurs il avait prêté énormément d'argent, oui, qu'il oui. avait sauvé, qu'il avait aidé, du génie tous les deux, et l'un musicien et l'autre écrivain et comédien. Et finalement, c'est Lully qui a trahi Molière oui. en lui volant sa troupe, son théâtre.
Et surtout le Palais Royal.
On va
expliquer en fait que quand oui. Louis XIV découvre Molière, mm-hmm. il va lui donner le Palais Royal. Il va lui donner la salle du Palais Royal pour s'exprimer pendant plusieurs années.
C'est-à-dire qu'il va faire quelque chose d'incroyable. Richelieu, qui était fou, qui voulait absolument faire une renaissance à la française, la France mère des arts, lui qui adorait l'Italie évidemment, dont il était vraiment le fils spirituel. Et Richelieu donc se fait construire à l'intérieur du Louvre, il n'y a pas encore Versailles, un théâtre magnifique mm-hmm. qui s'appelle évidemment, puisque c'est lui qui a payé, le Palais Cardinal. Mm-hmm. Richelieu meurt, il laisse en héritage ce palais cardinal au roi Louis XIV, qui nous l'abandonne complètement. Et tout d'un coup, quand il rencontre Molière, il lui offre non seulement ce palais qui va devenir donc le Palais Royal, mais en plus le titre de troupe du roi.
Voilà, c'est
et
ça.
Et c'est ça qui va rendre absolument invincible Molière pendant des années, car...
Bah, c'est confortable pour créer,
ah,
pour
complètement.
Jouer.
Et qui attaquerait la troupe du roi attaquerait Louis XIV lui-même.
Et alors Lully, qui fait des musiques pour Molière, mm-hmm. lui, il va l'aider dans ses pièces de théâtre. Il va être jaloux, Lully, parce qu'effectivement, il a moins d'argent, il a moins de notoriété. Donc il va s'attirer les faveurs du roi, et un jour, le roi décide que c'est Lully qui va occuper le Palais Royal, et Molière va être dégagé du palais.
Dégagé.
Et c'est la musique qui prend le relais du théâtre.
La musique prend le relais du théâtre, elle devient l'Académie Royale de Musique, dont le patron est Lully, et c'est fini pour des siècles, ou encore aujourd'hui, tout l'argent est absolument incroyable, englouti par la musique sublime, et le théâtre doit picorer,
comme des
poules dans un jardin. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, et la morale de tout, c'est que finalement, le public, lui, n'a pas trahi le théâtre.
Ouais, vous dites, la musique rassure, le théâtre fait peur. Et vous racontez une histoire liée à Blaise Pascal, qui a eu, je cite, le culot d'affirmer que la comédie est le plus dangereux divertissement du monde. Ça vous rend dingue, Francis Huster.
Ça me rend dingue parce que, en fait, c'est une trahison totale comme celle de Bossuet.
Appelez-moi Blaise Pascal.
Ou les autres. Non, mais vraiment. C'est-à-dire que, comprenez bien une chose. En Angleterre, 30 ans, 50 ans avant, Shakespeare, ce génie, le plus grand de tous, la médaille d'or. Pourquoi est-il la médaille d'or en dehors de ses qualités sublimes de dramaturge et de poète? Parce que lui s'adresse à Dieu. Ce que n'a pas fait Molière. Tartuffe ne s'adresse pas à Dieu, il s'adresse au traître de Dieu. Et c'est ça justement qu'est le talon d'Achille de Molière.
Bon, on va terminer avec une citation du médecin malgré lui que vous citez dans le dictionnaire amoureux sur l'ivresse, puisqu'on va parler de vin avec Daniel Picouli dans quelques minutes. Qu'ils sont doux, bouteilles jolies, qu'ils sont doux, tes jolis glouglous. Merci Francis Huster.
Merci,
votre dictionnaire amoureux
beaucoup.
Est paru aux éditions Plon. Il y a aussi Poquelin contre Molière aux éditions Armand Collin, un roman historique avec des faits évidemment réels. Vous restez avec nous. Nous rendrons hommage tout à l'heure à Jean-Jacques Benex avec vous et à Gaspard Ulliel. À suivre, Daniel Picouli et son rapport au vin. Avant cela, voici Karim Ouellet qui nous a quitté lui aussi. Il avait 37 ans. Il a été retrouvé mort lundi à Québec dans son studio d'enregistrement. Avant de l'entendre dans un extrait de la librairie francophone estivale, voici l'un des titres qu'il a fait connaître et qui a connu un grand succès au Canada.
On te dit ta route est tracée d'avance, alors tu gardes ce que tu penses pour toi. Pile ou face, c'est sans importance, laisse décider la chance, cesse de demander pourquoi. Alors on peut dessiner des mots d'amour du bout des lèvres, on peut siffler comme un oiseau quand le soleil se lève, on peut laisser ses mots crever dans sa bouche et pleurer comme un bébé quand le soleil se couche. Qu'on est pour ou qu'on est contre et qu'il faudra choisir un camp. Ah non, allons voir s'il nous est permis de garder l'espoir. On peut dire à celle qu'on aime et qu'elle est belle. Recommencer tous les matins quand le soleil se lève. On peut viser tous les cœurs et ne jamais faire mouche et rentrer seul quand le soleil se couche. On fait l'amour, on fait la guerre.
Harry Ouellet nous a donc quitté cette semaine. Il était venu dans la librairie francophone estivale en 2017. Nous étions avec lui et Tikenja Fakoli au Francofolie de Montréal. Voici un extrait.
Je m'appelle Karim Ouellet. Je vais compter jusqu'à 3 et vous allez me dire tous vos prénoms en même temps. 1, 2, 3. Enchanté. J'aime beaucoup écrire, j'écris de cette façon un peu, certains la décrivent parfois comme un peu ludique, un peu enfantine. J'aime l'aspect conte dans les chansons que je fais, j'aime raconter des histoires avec énormément d'images, j'aime que ça porte à interprétation, je me fais plaisir et puis tant mieux si on aime ça.
La culture africaine, elle vous inspire dans vos créations ou vous en détachez complètement?
Je vais vous expliquer comment ça m'inspire. Moi, je suis né au Sénégal, j'y ai passé quelques années, jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans, j'ai été adopté par deux Québécois, mes parents.
Votre papa est diplomate.
Oui. À la retraite aujourd'hui, mais diplomate à l'époque. Donc, quelques années au Sénégal, on s'est installé au Québec. Moi, c'était ma première fois à l'âge de 4 ou 5 ans. Quelques années au Québec, ensuite quelques années au Rwanda. Retour au Québec, suivi de quelques années en Tunisie. Retour au Québec, suivi d'un retour au Sénégal, à Dakar. Et puis, moi, ma passion pour la musique a débuté... je crois au Rwanda, quand j'ai réalisé qu'on avait des instruments de musique à la maison, un piano, des percussions. La musique dans tous ces pays m'a toujours énormément, énormément touché. Et lorsque je compose, c'est plutôt mes souvenirs qui viennent...
Des ambiances,
des souvenirs, des rencontres.
La musique de Tikenja Fakoli aussi.
La musique de Tikenja que j'écoute depuis très longtemps aussi, que j'aime beaucoup. Ouais. Moi, je suis... la musique que j'aime le plus, moi, c'est le reggae. Tikenja a été... celui qui m'a ouvert la porte vers une tonne de choses que j'écoute encore aujourd'hui. Donc,
alors c'est très, content d'être ici. Très mélangé. C'est vrai que votre production est très étonnante. Moi, j'ai vu votre concert deux fois, hein, à Montréal d'ailleurs. Le premier il y a quelques années où on vous faisait découvrir. Et puis au Francofolie cette année, Francofolie de Montréal. On va écouter un extrait de votre dernier album, Karim Ouellet, avec La mer à boire. Écoutez ça. Toutes nos pensées aujourd'hui vont à la famille et aux proches de Karim Ouellet. Il a sorti 3 albums magnifiques à découvrir en CD et en ligne sur les plateformes d'écoute. Karim Ouellet.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Bonjour Daniel Picouli.
Bonjour.
Bon, c'est pas très gai hein, aujourd'hui, j'avoue que voilà, c'est un petit peu compliqué, mais vous êtes là, Francis et vous, et ça nous fait du bien, je vous avoue. Votre nouveau roman, Les Larmes du Vin, est sorti chez Albin Michel. C'est un livre très personnel qui raconte votre vie à travers des souvenirs liés au vin. Le vin vous a accompagné indirectement dès la naissance avec votre parrain, qui a parié que vous alliez naître un 21 octobre, ce qui va arriver, et qui va venir à la maternité avec du champagne, mais ça ne se passe pas du tout comme prévu.
Non, non, c'est un parrain un petit peu particulier, quoi, comme on dit, mi-mafia, un gars qui était un ami de mon père dans le maquis du Morvan. Et oui, il a décidé, oui, c'était un flambeur, quoi. Il avait gagné de l'argent grâce à la victoire de Marcel Cerdan. J'étais, moi, le 21 septembre 1948, quand Cerdan bat Tony Zell, je suis dans le ventre de ma mère. Oui. Et imaginez ce que c'est qu'un combat en famille contre Marcel Cerdan, et Marcel Cerdan devenant champion du monde, et vous êtes dans le ventre de votre mère. Tout ce ballotage, vous le portez toute votre vie.
Amène un magnum de champagne.
Oui, il amène un magnum de champagne parce qu'il veut faire le beau. Oui. Et puis ça va exploser. Quoi.
Il a un accident, en fait. Il bute sur un chariot,
il se fracasse, le Jésus pleure toutes les larmes de champagne qu'il a eues parce qu'il a éclaté ça contre le mur. On est à la clinique. Mais ça va continuer. Bon, il va se fracasser une douzaine d'œufs. Il va venir à mon baptême, c'est Ramsès II aux urgences. Le gars, il arrive, il est bandé de partout.
Mais c'est qu'on décale votre baptême. Ouais,
entendre le parrain. Bien sûr, le temps que ce garçon se répare. Et là, il renouvelle sa performance avec un autre McDonald's de champagne qui, lui, va éclabousser toute l'église et qui va finir là où les grenouilles de bénitier trempaient leurs doigts. Elles ont trempé leurs doigts dans le champagne et à la messe le lendemain, c'était la pompette pour tout le monde. Voilà. C'est tout. C'est des scènes comme ça.
Alors, il veut qu'on vous baptise au champagne. Oui, parce qu'il dit l'eau, c'est pour les malades.
Oui, oui. Et puis on n'est pas des gadouilleux. C'était une façon de se situer. On est en 48. Ouais. Pour avoir un magnum de champagne, c'est impossible de l'avoir honnêtement. Ouais. C'est-à-dire que ce gars, il signe le fait que c'est une sorte de malfrat. Donc j'ai un champagne de mauvaise vie qui m'a baptisé.
Voilà, c'est ça.
Mais c'est surtout que ce que j'ai voulu raconter avec ça, c'est la quantité de personnages qu'on rencontre grâce au vin, grâce au champagne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Quand j'ai dit que j'allais faire une autobiographie par le vin, on m'a dit la première chose, mais toi tu bois pas. Je dis alors, moi j'ai écrit des romans policiers sans tuer personne. Hein. Je peux bien écrire des romans sur le vin sans boire. Et j'ai dit, je veux montrer, je veux essayer de comprendre moi en tant que bonhomme pourquoi je suis resté sur cette ligne de crête, cette réserve par rapport au vin.
Alors on va y venir. Il y a un lien particulier quand même avec des marques de champagne, Daniel Piccoli, que vous avez. Par exemple, à la naissance de votre fille, ce sera du Demoiselle de Vranken, si mes souvenirs sont bons. Il y a aussi le Mouette et Chandon pour les grandes occasions chez vos parents, le Piper Heitzig, le champagne des stars, selon votre famille.
De Marilyn Monroe.
Et ils ont tous un souvenir et donc chacun un goût singulier.
Absolument, parce que le champagne Demoiselle, je vous le conseille, vous regardez la bouteille et ce léger torsadé. Et vous avez ma fille. Aujourd'hui, elle a 23 ans et elle ressemble à cette bouteille de champagne.
Alors, le champagne n'est pas terrible, cela dit, mais...
Mais si je vous en prie, vous avez une façon de parler de mes souvenirs, tout de même. Parce que ce qui m'intéresse...
Non, mais Vranken a fait mieux que ça, le pommerie, par exemple.
Bien sûr, on reviendra parler entre connaisseurs. Mais ce que je veux dire, ce qui m'intéresse, moi, je ne peux pas donner la qualité des vins. Moi, ce sont des histoires. Un vin, un champagne est une histoire. Un champagne, bien sûr, la naissance de ma fille. Après, j'ai eu d'autres champagnes, d'autres vins, et à chaque fois, c'est ça que je veux.
Oui, c'est ça. Vous vous questionnez d'ailleurs sur la notion de meilleur vin du monde.
Ouais.
Et là aussi, le meilleur vin du monde, il n'existe pas. Il n'existe qu'à travers un souvenir personnel.
Bah oui, moi, c'est la Marone. Pourquoi c'est la Marone? Parce que un jour, un restaurateur italien, à la fin d'un salon du livre, m'a offert la Marone parce que je lui avais donné tous les tickets qu'on avait à la fin. Et il m'a dit, écoutez, il faut que vous ayez boire la Marone à Rome, devant la fontaine de Trevi, vous buvez la Marone avec votre douce, vous jetez une pièce par-dessus votre épaule dans la fontaine, et si vous entendez Anita Edberg vous appeler Marcello, c'est qu'elle vous aime. Voilà. Quand un gars vous raconte une histoire comme ça, ça devient le meilleur vin du monde. C'est pas une question. C'est ça. Moi, je suis toujours étonné qu'on puisse classifier comme ça. Non. Les meilleurs vins, ce sont ceux qui vous racontent les meilleures histoires.
Et c'est ça. Ouais. Et vous racontez quelque chose de très juste, Daniel Piccoli. Vous dites, on ne reçoit pas tout le monde avec la même qualité de vin.
Ah oui, absolument.
Et ça, c'est vrai qu'on ne fait pas exprès.
Bah non.
Mais on le fait tous.
Ah bah, écoutez, moi, chez moi, j'ai vu mes parents, ma mère, recevoir le livreur de charbon plutôt sur le trottoir, le gars qui venait pour le gaz là, et le payeur des allocations familiales avec la nappe. Parce que je suis 11e d'une famille de 13, quand le gars arrivait et qui déposait ses billets qui allaient l'époque était plutôt en format A4, eh bien, c'était le roi, quoi. Et on sortait, et je les voyais, ouvrir une petite porte du placard, comme ça.
Et choisir le vin,
Le vin.
En fonction de la personne.
Du payeur des allocations familiales, oui, bien sûr. Alors que le charbonnier, il m'effrayait parce qu'il était tout noir, et il se lavait une main pour boire ce vin, et ce gars avait une main blanche. Quand j'étais gamin, je voyais un type se mettre la main blanche pour boire un verre de vin. C'est des choses qui vous marquent à vie.
Alors, vous racontez plein de choses comme ça, plein de rencontres, il y a plein de références, Daniel Piccoli, on vous connaît, et c'est très drôle, il y a de la gouaille, comme on dit. Et vous racontez, encore une fois, cette histoire de parrain, j'insiste, parce que c'est vraiment les 50-100 premières pages.
Black Jack,
qui revient régulièrement, et un jour, votre parrain disparaît, un peu après votre naissance, ça a été un mauvais parrain, en fait.
Ouais.
Mais il enverra tous les 21 octobre une bouteille de vin, quand même.
Oui, il disparaît, et c'est étrange, parce qu'il envoie des vins, par exemple, d'Argentine. Et vous savez que quand quelqu'un disparaît après-guerre d'Argentine, c'est qu'il est allé se réfugier et que c'était certainement un collabo.
Oui,
voilà.
C'est ça.
Donc voilà, ce type est aussi formidablement romanesque parce que comme ça, il m'a envoyé des vins de l'extrême et des vins bizarres du monde entier. Voilà.
Bon, allez, on va laisser la parole à nos libraires que vous connaissez bien, Daniel, avec le Canada et la Belgique qui ont lu votre roman. On commence par qui?
Comme vous voulez, Belgique. Hein.
La Belgique, tiens, allons-y.
Ouais, parce que je veux savoir ce que c'est, Ulpe. Qu'est-ce que ça veut dire?
À la Ulpe, Nathalie Clairin.
Oui, mais non, mais qu'est-ce que ça, le mot, qu'est-ce qu'il veut dire?
Ah, Nathalie.
Oh là là, vous me posez une colle.
C'est pas un oiseau ou un truc comme ça, enfin je sais pas.
Ah, ça serait bien lié peut-être à des terrains. Il faudrait, oui, je dois vérifier. Je suis désolée.
Bon, mais, allez, c'est la colle de Daniel Piccoli. Quel est votre avis sur son roman du coup?
Eh bien, du coup, il est des mots comme des raisins. Eh bien, moi, je suis d'accord avec lui parce qu'il dit, voilà, il faut pas les cueillir trop tôt. Et je crois que j'ai exactement cueilli les vôtres au bon moment, Daniel Piccoli, parce que je les ai trouvés tout à fait à point. Alors, vos jeux de langue, ils résonnent comme à la dégustation d'un des meilleurs millésimes. Votre cru est long en bouche, alors que pour certains, on se désole de devoir le boire jusqu'à la lie. Eh bien, le vôtre, il ne dispense que d'excellentes gorgées jusqu'à la fin.
C'est presque du Molière.
C'était le moment.
Allez, le Canada, Josiane Letourneau.
Eh bien, moi, trois mots me sont venus à l'esprit en vous lisant, un peu comme viennent les saveurs lorsque l'on déguste un vin. Humour, plaisir et énergie. Quelle énergie vous avez! Votre plaisir est palpable. Votre écriture bouillonne de vie. C'est absolument rafraîchissant à lire. Vraiment, je suis pas médecin, mais j'ai envie de prescrire ce livre à toutes celles et ceux qui ont besoin d'une lecture pour les sortir de la grisaille, parce que comme le champagne, votre livre est bon pour le cœur et la tête.
Ah, voilà, je vous autorise cet exercice illégal du vin et de la prescription.
Merci beaucoup.
Ça me fera plaisir.
Alors Daniel Piccoli, vous êtes tenu à l'écart du vin dans votre jeunesse, car vous avez assisté à des scènes d'ivresse et d'alcoolisme en famille, et aussi à des personnages menaçants sous l'emprise de l'alcool. Et c'est vrai que quand on a l'alcool mauvais, ou quand on en boit trop, même du vin, même du bon vin, au détriment de sa lucidité, c'est la fin de soi-même.
Oui, et c'est peut-être l'apprentissage le plus radical, c'est quand vous êtes un enfant et vous aimez quelqu'un que vous adorez, ça peut être un cousin, ça peut être un oncle, et puis vous le voyez un jour autre, parce qu'il a un petit peu trop bu, mais c'était jamais des choses très 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 graves. Nous, il y avait beaucoup de mariages, c'était surtout à la fin des mariages, puisque, voilà, qui en même temps produit un événement fondamental, c'est la première cuite, c'est-à-dire les gosses, quand les parents les invités ont bien dansé, pendant ce temps-là, les gosses finissent les verres.
Oui, et les bouteilles.
Et les bouteilles.
Oui, on a tous fait ça.
Et il naît de ça, peut-être un des plus beaux mots de la langue française, puisqu'on parle des mots, c'est pompette. Ouais. Être pompette. Ouais. Je trouve que c'est délicieux.
Mais alors, vous ne buvez vraiment pas aussi un petit peu?
Je bois avec plaisir.
Oui,
mais
je vous ai vu boire du rhum, moi, en Martinique.
Bien sûr, vous voulez pas que je me fasse expédier et expulser pour refus de rhum.
Alors justement, vous évoquez vos origines martiniquaises. Oui, oui. Avec le rhum, vos grands-parents maîtrisaient l'art du rhum.
Oui, ils maîtrisaient l'art. C'est obligatoire. Mais ce que j'aime presque le plus dans le vin et les Antilles, c'est qu'il y a un vin que je trouve mystérieux et formidable. C'est ce qu'on appelle un vin de retour des îles. Ce vin de retour des îles, c'est un Bordeaux. Oui. Qu'on transporte dans des trois mâts, qu'on va faire bourlinguer pendant plusieurs mois, bourlinguer aux embruns, bourlinguer à la mer. Et quand il revient, il a un parfum particulier. C'est un vin de flibuste, quoi. Oui. C'est un vin de flibustier.
Un vin de voyage.
Voilà. Et quand tout à l'heure, je vous ai raconté Marcel Cerdan et moi dans le ventre de ma mère, j'ai l'impression que c'est la même chose. Je suis un vin de retour des îles de ma mère.
Alors, vous évoquez Malek Chebel. Oui. J'ai une pensée pour lui parce qu'on l'aimait beaucoup.
On l'aime beaucoup.
Et vous le citez, il a écrit l'anthologie du vin et de l'ivresse en islam, un livre subversif. On croise Daniel Pennac aussi. Alors là, vous le citez, mais vous ne voulez rien dire sur lui. Donc,
j'ai écrit une phrase que je n'ai jamais écrite. Je ne sais pas ce que je serais devenu si je n'avais pas rencontré Daniel.
Et vous
Daniel
arrêtez
Pennac.
Là.
Ça suffit. Et Daniel sait que ça suffit.
Et puis il y a de la musique aussi. Je ne peux pas résister. Écoutez.
Par les différences que j'aime, café léger, au lait mélangé, séparé petit enfant.
Alors moi je n'arrive pas à l'arrêter cette chanson, je préviens.
Non mais je vous comprends. Parce que ce café au lait mélangé, c'est quelque chose que j'avais écrit dans le champ de personne et j'en ai parlé à Woolsey. J'ai dit, écoute-moi, le matin quand j'étais un gamin, je mettais du lait dans mon bol, du café, et je le mélangeais jusqu'à temps que le café au lait ait la couleur de ma main. Et en plus, Woolsey, ce que je lui ai dit, c'est que ma fille est née dans une maternité dans laquelle les salles sont des noms d'îles. Et ma fille est née à Belle-Île.
C'est l'eau qui vous sépare. Et vous l'êtes.
et vous laisse à part. Ouais. Voilà. Bon, on va l'arrêter quand même un moment. Vous pouvez me dire, Daniel Piccoli, laissez-le derrière quand même, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que c'est un verre de vin sans faux col?
Oui. Bah, c'est parce que.
Ça revient souvent dans votre livre.
Mais c'était une
verre de vin sans faux col.
C'est une expression de mon père.
Oui.
On dit ça pour la bière. Hein, on dit servir un demi sans faux col.
Sans la mousse.
Ouais, sans la mousse. Oui. Donc, ce qu'il veut dire par là, c'est-à-dire, bon, vous me servez la bonne dose et du bon.
Voilà, bien rempli, quoi.
Bah, oui, et bien rempli. Voilà. C'était une expression de mon père. Et je parle beaucoup de mon père que j'accompagnais un petit peu aussi au bistrot de temps en temps.
Oui. Francis Huster, le vin, c'est votre truc?
Ah pas du tout, non.
Ah, pas du tout.
Je suis complètement.
Oui.
Le seul souvenir de vin que j'ai, c'est que pour mon entrée à la Comédie Française, François Florent, Weber, Spiesser, Lemoyne, tout ça, on fait une soirée et puis ils me servent du vin. Je rentre complètement bourré. Je prends l'ascenseur chez moi qui montait à cette époque-là. Il y avait les vitres, tu voyais à travers. Ils sont tous les quatre là à me faire coucou et je dégueule contre la vitre. C'était l'horreur. J'ai plus jamais rebu de vin.
Je savais bien qu'il y avait de toute façon au moins un souvenir de vin pour chacun.
C'est
ce que ça provoque.
C'est ça.
Vous mettez le sujet sur la table, parce qu'il y a d'autres sujets qu'on peut éviter maintenant, comme ça, grâce à ça, eh bien, vous allez avoir.
Il y a toujours quelque chose à dire.
Une succession d'anecdotes.
Les larmes du vin est paru aux éditions Albin Michel. Vous lirez ce livre, Francis, quand même, pour le coup.
Je le dévorerai. Je le boirai pas, mais je le dévorerai.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
La chronique des libraires, première partie, très vite avec les coups de gueule et les coups de cœur. Un coup de gueule en France, Mathieu Colombe.
Eh oui, sur un livre qui m'a fait un peu rager, qui s'appelle Rentrée littéraire d'Éric Neuhoff, parce que voilà, c'est très bien écrit, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très très bien écrit. Après, il nous offre quoi? Bon, une histoire d'amour, ok, c'est déjà pas mal, mais en fait pas grand chose d'autre, à part une description très partielle et pas assez profonde du milieu littéraire et une impression de grogne vindicative un peu vaine. Bref, on s'y retrouve pas.
Voilà, le petit milieu littéraire parisien, incarné par Éric Neuhoff, disons-le. Merci, Mathieu. Un coup de cœur et un hommage en Suisse.
Oui, c'est en hommage à Laurence Boissier, écrivain genevoise, une présence ensoleillée et souriante qui nous a brutalement quittés le 7 janvier. Alors ses livres courts et décalés se moquaient de nos travers et avec autodérision et on ne pouvait que sourire et rire en la lisant. Et son écriture, en fait, elle était comme elle, fine et élégante. Alors son regard, pince sans rire, sur la nature humaine va nous manquer, tout comme au paysage genevois.
Ouais, Laurence Boissier, née à Genève, qui est décédée le 7 janvier 2022. Elle a eu le prix Suisse de littérature en 2017. Merci beaucoup pour cet hommage. Merci Claire. À suivre notre hommage à Jean-Jacques Benex autour de son roman Toboggan et à Gaspard Ulliel avec Francis Huster. Avant, on écoute le nouveau titre de PR2B dans la librairie francophone.
Minuit, soleil, tête sur la vitre, j'ai pas sommeil. La city dort depuis 6 mois. Tu sais vraiment n'importe quoi ce qu'on vit, dis-moi minuit, Marseille. Je voudrais bien que la vie se réveille, qu'elle remplisse tout d'un feu grisant, qu'on n'entende que les pneus qui crissent, la vie reprend. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà, sans les rayons. Sur l'oreiller, et moi je me retiens encore une fois de pleurer. Minuit, pareil, que les chiens qui se la coulent belle. 18 carats sur le collier, et la même envie insoutenable de s'évader. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà, sans les rayons gamma. Alors, si on changeait. Commencer, je crois qu'on s'est tout. toucher la joue. La vie ça rend fou, mais je voudrais qu'on court jusqu'à l'en finir et puis tout recommencer. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà, sans les rayons.
C'était PR2B avec Rayon Gamma.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
La mort de Jean-Jacques Benex laisse un grand vide dans le monde du cinéma. Il avait publié son premier roman Toboggan en 2020 en plein confinement. Nous l'avions reçu à la radio et la télévision. Voici un large extrait pour la version télé de la librairie francophone. Un moment d'émotion inédit donc à la radio. Son roman est sorti en poche le 14 janvier dernier, le lendemain de sa mort. Le réalisateur Jean-Jacques Benex vient de publier son premier roman, Toboggan, une histoire d'amour qui se termine, la chute d'un homme, mais aussi la chute d'un monde et d'un système mondialisé. Bonjour Jean-Jacques Benex.
Bonjour.
Votre personnage sort d'une histoire d'amour, selon lui sa dernière histoire.
Oui.
Solène l'a quitté, ils avaient une grosse différence d'âge. On ne vit pas longtemps avec une femme qui a 27 ans d'écart.
Non, il y a plein de belles histoires comme ça, avec des jeunes femmes qui ont aimé des hommes plus âgés, mais... Je ne suis pas sûr que ce soit la chose qu'il fasse, il faille recommander. Il y a quelque chose, il y a une telle différence que il y a des centres d'intérêt, il y a une façon de vivre qui est différente.
Ouais.
Alors, je pense que ça peut apporter quelque chose aussi, hein, cette différence, elle est extrêmement féconde. Hein.
Oui, ça, on s'enrichit l'un l'autre.
On s'enrichit l'un l'autre.
Ça peut aussi.
Mais le temps fait que on est quand même. Sur une autre orbite.
Oui, le temps nous rattrape toujours.
Ah
c'est
oui.
un peu ça que vous dites. Hein. C'est ce que vous montrez d'ailleurs dans ce livre. Parce que comme sur un toboggan, votre personnage, il va glisser.
Il descend.
Parce qu'il verra son ex refaire sa vie à New York, s'exposer comme ça sur les réseaux sociaux. Il va aussi tomber malade, il s'enferme dans sa rupture, dans sa maladie. Il se confine hein, déjà, il confine son corps et son esprit. Et pourtant, c'est un homme qui a été un grand artiste, un producteur de films aussi, qui a arrêté depuis longtemps. Le monde du cinéma l'a écœuré, cet homme-là.
On s'étend pas tellement là-dessus, finalement. C'est pas ça qui compte.
Ouais, c'est en filigrane.
Oui, mais c'est en filigrane parce que c'est un monde dévastateur. C'est un monde qui dévore.
À ce point-là.
Oui, bien sûr. Bah, oui, c'est un monde. On s'approche des étoiles, du soleil, et on se brûle les ailes.
On les touche un peu quand même. Vous les avez touchées, les étoiles, vous?
Oui, je les ai touchées, mais. C'est pas grand-chose, si vous voulez.
C'est pas grand-chose ?
Non, finalement, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose.
Vous êtes content de ce que vous avez fait, quand même ?
Je suis content de ce que j'ai
Regardez
fait.
Regardez ces affiches-là.
Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, mais...
c'est pas mal, ouais.
Mais non, mais ça ne me satisfait pas, si vous voulez. Ce qui me satisferait vraiment, ça serait un autre film, un autre roman. C'est ce qui vient.
Ouais.
Or,
mais il faut faire du cinéma, Jean-Jacques Benex.
Non, je ne ferai pas de cinéma.
Et pourquoi ? Vous ne pourriez plus faire 37-2, par exemple, aujourd'hui ?
Non, regardez les critères. On ne prendrait pas une jeune inconnue pour faire des scènes
Béatrice Dalle, qui était
sexuelles
inconnue.
Comme ça. Non, ça ne serait pas simple. Le cinéma, il est fondé sur l'argent, le profit, beaucoup plus... que sur le respect des artistes et sur l'émulation des artistes. Et entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui, ce travers a encore augmenté. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que je lisais, il y a très peu de temps, un livre de Joseph Kessel, que je vous recommande, sur Hollywood, où il écrit en 1936. Et c'est marrant parce que de tout ce qu'il raconte, ce qui ressort, c'est chez les producers, c'est ce besoin d'argent, l'argent. Et puis, le livre se termine presque dans un incroyable casino au milieu du désert, du côté de Palm Springs, où on découvre un casino. En réalité, Hollywood est un casino.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Alors, le monde est un casino, Jean-Jacques Benex.
Le monde est un casino.
Parce que tout le monde regarde son nombril, tout le monde pense aux richesses.
Oui.
Alors, du coup, vous contrebalancez cela avec des moments subtils dans ce roman, sur le deuil, par exemple, les regrets que l'on a à ne pas s'être assez parlé, à ne pas se dire les choses.
Oui.
Vous dites, il faut dire à ceux qu'on aime qu'on les aime, quitte à être un peu impudique, il faut dire à ceux qu'on aime, je t'aime, tout simplement.
Oui, et c'est difficile, parfois.
Ça a été dur pour vous, dans votre vie?
Oui, peut-être.
Ah oui?
L'orgueil.
Namaek est très proche?
C'est difficile.
Ah oui?
C'est difficile d'aimer. Et
ça vous émeut, Jean-Jacques?
Une vie sans
ça...
amour est une vie foutue.
Vous avez des regrets, alors?
Bien sûr.
Ah ouais.
D'autant plus que il y a un moment où c'est pas... le temps des regrets est passé.
Mmh. C'est trop tard.
Oui, trop tard. Mais c'est parfait pour écrire.
Écrire et vivre des moments, des instants présents. Ce petit instant-là, cet apéro ce soir avec un verre de vin, pas plus. Hein. Ça, c'est important.
C'est bien. Je suis d'accord. Mais on peut faire un roman avec très peu de choses, finalement.
Ouais. Et faire plein de pages, regardez.
Ouais.
Bon, merci Jean-Jacques.
Merci.
Merci. T'as un grand honneur de vous avoir ici sur ce plateau. Merci, merci beaucoup. Toboggan.
Formidable et très, très, très aimable de supporter ce jeune écrivain.
Merci Jean-Jacques Benex. Merci, merci beaucoup.
Le roman de Jean-Jacques Benex, Toboggan, vient tout juste de sortir en poche chez J'ai lu. Il y a des hasards comme ça plus que troublants dans la vie. Francis Huster, je sens très ému.
Oui, parce que tout le monde avait dans ma génération un moment d'admiration pour Jean-Jacques Benex, mais je veux lui dire, puisqu'il doit nous écouter de là-haut, que c'est à soi-même qu'il faut dire que l'on s'aime. C'est à soi-même. Et le film de sa vie, Jean-Jacques, tu l'as toi-même sacrifié, ta vie, dans un film qui est un drame et une tragédie, pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui t'aimaient. C'est sa vie qu'on doit écrire, Jean-Jacques. Et ce métier a été épouvantable avec toi, absolument terrifiant, ce qui s'est passé à Cannes. Ils t'ont trahi alors que tu avais une vie à la Godard qui était devant toi. Un cinéma qui se réinventait justement d'une façon lumineuse. Et c'est la vie où tu as été obligé de te trahir toi-même, mais ne crois pas que les autres ne t'ont pas aimé, et je pense que tu resteras un peu comme Gérard de Nerval qui a fini sur son lampadaire au pied d'un escalier, mais tu resteras, tu verras.
Ça vous énerve un peu, ce qu'il disait. C'est triste, c'est ça?
Bah, c'est triste, et en même temps, là-haut, il doit comprendre certainement ce message, et c'est là-haut qu'il doit se battre maintenant.
On ne pouvait pas rendre hommage à Benex et à Karim Ouellet sans évoquer la mémoire de Gaspard Ulliel, qui avait joué dans le film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde, adapté de la pièce de Jean-Luc Lagarce. Il avait obtenu le César du meilleur acteur dans ce rôle. On termine cette émission avec la voix de Gaspard. Voici un extrait de cette œuvre avec le monologue qui ouvre le film.
C'est ainsi qu'après une douzaine d'années d'absence, et malgré la peur, je décidais de retourner les voir. Il existe une variété de motivations qui vous appartiennent, qui ne regardent personne d'autre que vous, qui vous poussent à partir dans la vie, à ne pas regarder en arrière. De la même manière, il existe une variété tout aussi grande de motivations qui vous poussent à revenir. Alors c'est ainsi qu'après toutes ces années-là, je pris la décision de revenir sur mes pas. Faire le voyage pour annoncer ma mort. L'annoncer moi-même et paraître pouvoir me donner et donner aux autres une dernière fois l'illusion d'être. Jusqu'à cette extrémité, propre maître. Voyons voir comment ça va se passer.
Je sais bien que tout est égo et 2.0. T'avais besoin.
Gaspard Ulliel, dans Juste la fin du monde, pièce de Jean-Luc Lagarce, qui est publiée aux éditions Les Solitaires Intempestifs. Francis Huster, vous avez joué avec Gaspard Ulliel.
Oui, il avait débuté dans le chef-d'œuvre de Haute-Mesguin, Julien l'Apprenti, il était éblouissant. Et pour moi, c'est vraiment comme James Dean, quoi. C'est affreux, c'est un ange qui s'en est allé.
C'est très brutal, effectivement.
C'est injuste, injuste.
Terriblement, oui.
Vraiment.
Bon, merci beaucoup. Merci Francis.
Merci.
Je veux dire que Benex et lui, ils partagent la même sombre lucidité à des âges différents. On a l'impression qu'il y a un toboggan aussi chez ce garçon.
Merci à vous. Merci beaucoup. Voici la chronique de nos libraires, deuxième partie.
La librairie francophone. Emmanuel Queyrade.
Allez, un coup de gueule en Belgique, Nathalie Clairin.
Oui, Emmanuel, mais juste avant, un mini-message à Daniel Picouli. Le nom La Hulpe vient du mot celtique help, et ça veut dire rivière d'argent. C'est vrai que l'Argentine y passe.
Voilà. Parfait.
Je voulais juste lui dire
Allez,
ça.
On a trouvé.
Sinon, par ailleurs.
Allez-y.
Voilà, c'est vrai que je suis énervée en voyant la situation actuelle. Parfois, quelles circonstances de vie faut-il pour que, en tant que client, on ait un peu plus de patience vis-à-vis des temps de livraison? Alors, on sait qu'il y a des problèmes d'approvisionnement de papier, des fournisseurs en mal d'employés tombés malades. Mais alors quoi? Je vous le concède, dans certains cas, il faut le livre pour un cours, un exposé. Mais dans 90% des cas, on a repéré un livre dans une bonne critique et il le faut tout de suite. Mais et oui. Alors moi, je vous dis, voilà, s'il est en rupture de stock, quelques semaines plus tard, quand le livre est réédité, ben, il est toujours aussi intéressant.
De la patience, voilà le message de Nathalie. Merci à vous. Merci. Un coup de cœur au Canada, Josiane Letourneau.
Oui, de mon côté, Emmanuel, je vais vous parler d'un de ses livres qui révèle sa qualité hors norme dès les premières lignes. Et c'est le recueil de nouvelles « Western Spaghetti » de Sarah Ananda Fleury, publié au Cardani. Écriture d'une justesse saisissante, des personnages qu'on surprend souvent dans des points de bascule et des histoires qui nous font pour la plupart sillonner l'Amérique. Un premier livre pour l'autrice et quand on lit, c'est stupéfiant d'y penser. Alors je vous le recommande d'aplomb.
« Western Spaghetti » aux éditions Le Cardani. Merci beaucoup, Josiane. Avant de conclure, on écoute le son de l'outre-mer avec un extrait du nouvel album de la chanteuse martiniquaise Valérie Loury.
Con en flèque qui vise loin la terre, l'eau usée qui vit ni belle, en chalet qui cavlope chez moi, en douceur qui a titillé moi, ou qu'a rendu la vie belle, même si sentiment frêle, moi pas ça foutu ou aime moi, et profiter qu'on s'y panique demain, dans des bras. C'est force l'amour, divini moi et on l'homme et moi. Moi, rivais tout seul assis la terre. Pas besoin de joindre l'homme pour vivre. Les ouailles étaient en équilibre. Pas mettre tout poids en l'air en l'autre. Balance l'amour fragile, moins dix autres. Dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras. Tous les cavines bonnets, dans tes bras, dans tes bras.
C'était un extrait de Dans des bras, on dit comme ça, Dani Piccoli.
Absolument.
Le nouveau titre de la martiniquaise Valérie Loury. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince avec Adèle Caglar. À la rédaction, Jean-Philippe Verret, Christophe Magère de France Inter avec Lucas Hens, avec les équipes aussi de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. Thierry Dupin à la prog musicale. La semaine prochaine, Thomas Gunzig, Rodney Saint-Éloi, Geneviève Brisac et MC Solar. Merci pour votre fidélité. Bon week-end. Bonne semaine à tous.